Chapitre 5. Tandis que Zed éclatait en sanglots, Nietzsche se redressa de toute sa hauteur, le dos bien droit et les genoux serrés afin d'éviter au maximum que ses jambes se dérobent sous elle. Depuis le début, elle s'était jurée que pas une larme ne lui échapperait, et elle avait presque réussi. Quand elle avait invoqué le pouvoir d'Orden, remettant les boîtes dans le jeu au nom de Richard, cette magie avait eu sur elle un effet secondaire inattendu. Jusqu'à un certain point, elle avait réparé les dégâts provoqués dans sa mémoire par la chaîne de flammes. Lorsque Nietzsche avait désigné Richard, faisant de lui le joueur, elle s'était soudain souvenue de Callan. Rien ne lui était revenu en mémoire puisque tout cela était irrémédiablement perdu, mais elle avait de nouveau eu conscience qu'une femme nommée Callan était l'épouse aimée de Richard. Dans un passé très récent, mais qui semblait remonter à l'aube des temps, Nietzsche avait cru dur comme fer que son ami était victime d'une hallucination. Même quand Richard avait trouvé le grimoire intitulé « La chaîne de flammes », prouvant qu'il avait raison, l'ancienne maîtresse de la mort l'avait cru, certes, mais d'une manière purement intellectuelle. Les preuves abondaient, il aurait été absurde de le nier, mais quant à avoir une véritable conviction. Pour ça, Nietzsche aurait eu besoin de souvenirs personnels. Or, il n'en était rien. Pour elle, rien ne démontrait l'existence de Callan, à part les certitudes de Richard et une série de preuves objectives. En un sens, Nietzsche croyait à Callan comme elle croyait à l'existence de certaines forces naturelles, parce qu'il le fallait, mais en aucun cas parce qu'elle le sentait. Mais tout avait brusquement changé. Même si elle ne se souvenait de rien qui concernât la femme de Richard, elle était viscéralement certaine de son existence. Pour y croire, elle n'avait plus besoin de se référer à Richard. D'instinct, elle savait que la femme dont il parlait était bien réelle. Après tout, il arrivait qu'on se souvienne d'avoir rencontré une personne sans qu'on soit pour autant capable de se remémorer son visage. Et même si l'apparence d'un être refusait de revenir à la surface, sa réalité ne pouvait pas être contestée puisqu'on se rappelait l'avoir croisée. À cause de la magie d'Orden qui avait à demi neutralisé les effets du sort d'oubli, Callan faisait désormais partie du paysage mental de Nietzsche. Si elle la croisait, elle verrait la mère inquisitrice comme elle voyait n'importe qui d'autre. Le sort d'oubli était toujours là, mais contrecarré par la magie d'Orden. Du coup, Nietzsche avait de nouveau accès à la vérité. Même si ses souvenirs de Callan étaient toujours inactifs, elle ne pouvait plus douter de son existence. Désormais, elle était sûre à 100% que Richard n'était pas amoureux d'un fantôme. Et même si ça lui brisait le cœur, elle était sincèrement contente pour lui. Kara approcha, se campa derrière Nietzsche, et fit une chose incroyable pour une mort de site. Passant un bras autour de la taille de son amie, elle l'attira contre elle. Un acte incroyable pour une mort de site? Plutôt 10 fois qu'une avant que Richard ait tout bouleversé. Comme l'ancienne maîtresse de la mort, Kara avait été arrachée à la folie par le sourcier. À force d'aimer la vie, cet homme la faisait aimer aux autres. La mort de Sid et Nietzsche voyaient Richard d'une façon qu'elles étaient seules à pouvoir comprendre. Zed lui-même n'était pas en mesure de se mettre à leur place. En plus de tout, Kara était parfaitement bien placée pour juger à sa juste valeur le sacrifice que venait de faire Nietzsche.
« Vous avez très bien agi, » souffla la mort de Sid.
« C'est exact, » dit Zed en se levant. « Désolé d'avoir été si dur avec toi, mon enfant. Je vois désormais que tu n'as pas agi à la légère. Tu as fait ce qui te semblait juste. Les circonstances étant ce qu'elles sont, je pense que tu as bien estimé la situation. Navré de m'être laissé emporter, vraiment, mais comprends que j'ai des raisons très particulières de me méfier du pouvoir d'Orden. Pour tout dire, je dois en être le plus grand expert au monde. » J'ai même vu Darkenral invoquer cette magie. Avec un tel bagage, je ne pouvais pas juger les choses comme toi. Je n'ai pas totalement changé d'avis, mais je salue ton initiative à la fois judicieuse et pleine de courage, sans parler d'une bonne dose de désespoir. En matière d'actes désespérés, j'ai une longue expérience et je sais qu'ils sont parfois incontournables. J'espère que tu ne t'es pas trompé. Même si ça signifierait que j'étais dans l'erreur, je donnerais cher pour que tu aies eu raison. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Ce qui est fait, voilà tout. Tu as remis dans le jeu les boîtes d'Orden au nom de Richard. Bien que j'aie des réserves à formuler, nous sommes solidaires les uns des autres dans notre camp. Maintenant que le vin est tiré, il va falloir le boire. Comme d'habitude, nous ferons de notre mieux pour aider Richard. Si les chauds nous seront tous vaincus et la vie aura perdu la bataille.
Nietzsche ne tenta pas de cacher son soulagement.
Merci, Zed. Avec votre aide, nous réussirons. Mon aide? Je risque surtout d'être une gêne. Cela dit, j'aurais aimé que tu me consultes avant d'agir. Je l'ai fait. En demandant si vous mettriez entre les mains de Richard le sort de l'humanité, qu'aurais-je pu vouloir de plus pour me décider?
Zed sourit malgré l'infinie tristesse qui voilait son regard.
Tu as peut-être raison. Entre le sort d'oubli et la contamination des carillons, je suis peut-être devenu incapable de penser. Je n'en crois pas un mot, Zed. Vous aimez Richard, et vous vous rongez les sangs pour lui. Si l'enjeu n'avait pas été si élevé, je ne serais pas venu vous consulter. Mais grâce à votre réponse, j'ai su que faire avec une absolue certitude.
Et si vous vous en mêlez encore les pinceaux, dit Kara au vieil homme, je me chargerai de vous remettre les idées en place.
C'est bizarre, mais je ne suis pas vraiment rassuré.
Nietzsche en fait toute une affaire, mais en réalité c'est très simple. Tout le monde devrait être à même de saisir, vous compris.
Que veux-tu dire?
Nous sommes l'acier qui combat l'acier. Le seigneur Ra, lui, est la magie qui lutte contre la magie.
Pour la mort de Sith, ce n'était pas plus compliqué que ça. Parce qu'elle n'avait pas conscience de voir les choses très superficiellement? Ou parce qu'elle les analysait au contraire à un niveau bien supérieur à celui de ses compagnons? Nietzsche n'en savait rien, mais elle espérait bien trouver un jour la réponse. Quand Zed lui posa une main sur l'épaule, ce contact lui rappela les gestes de réconfort dont Richard n'était jamais avare. Encore un point commun entre les deux hommes.
Malgré les sereines convictions de Kara, dit le vieil homme, ta décision entraînera peut-être notre destruction. Pour éviter ça, il nous reste beaucoup de pain sur la planche. Richard va avoir sacrément besoin de nous deux. N'oublie pas qu'il ne connaît rien à la magie.
Nietzsche esquissa un sourire.
Il est bien plus doué que vous le pensez.
C'est lui qui a repéré la souillure dans le sort d'oubli. Aucun de nous n'a compris cette histoire de langage et de symboles à part lui. Sans l'aide de quiconque, il a appris à déchiffrer de très anciens pictogrammes, des dessins mystérieux et ce qu'il appelle les emblèmes. Je n'ai jamais pu lui apprendre à contrôler son don. En revanche, sa profonde compréhension de la magie, au-delà des données conventionnelles, m'a plus d'une fois stupéfié. En d'autres termes, il m'a enseigné les choses que je n'aurais même pas cru possibles.
Je vois ce que tu veux dire. Il m'a fait ce coup-là aussi.
La seconde mort de Sith présente dans la forteresse, Rika, passa soudain la tête par la porte.
Zed, j'ai quelque chose à vous dire.
Elle désigna le plafond.
J'étais quelques étages plus haut, et je crois qu'une fenêtre a dû se briser parce que le vent fait un drôle de bruit.
Quel genre de bruit?
Je ne sais pas trop, c'est difficile à décrire. On dirait qu'il gémit dans un étroit passage.
Qu'il gémit ou qu'il hurle?
Qu'il gémit sans aucun doute possible, comme lorsqu'il souffle sur des remparts traversant les créneaux.
Nietzsche jeta un coup d'œil vers la fenêtre.
L'aube pointe à peine. De toute la nuit passée à lancer des sortilèges, je n'ai pas entendu souffler le vent.
Dans ce cas, j'ignore ce que ça peut être. « La forteresse respire parfois un peu fort, »
intervint Zed.
« Respire ?»
s'étonna Rika.
« Oui, »
confirma le sorcier.
« Quand la température change, comme en ce moment où les nuits deviennent beaucoup plus froides, l'air accumulé dans les milliers de pièces réagit à ces variations. Parfois, aspiré dans les couloirs les plus étroits, il gémit comme un spectre alors qu'il n'y a pas de vent dehors. »
« Eh bien, je ne suis pas ici depuis assez longtemps pour connaître ça, mais c'est sans doute l'explication. »
Rika haussa les épaules.
« La forteresse respire, admettons. »«
Rika, »
demanda soudain Zed,
Que faisais-tu dans les niveaux supérieurs ?
Chase cherche Rachel, et je lui donnais un coup de main. Quelqu'un aurait vu la petite ?
Zed secoua la tête.
Pas ce matin, mais hier soir, juste avant qu'elle aille au lit.
Je le dirai à Chase.
Rika jeta un coup d'œil circulaire dans la salle.
C'est quoi ce truc brillant sur la table ? Que faites-vous donc tous les trois ?
On est à la pêche au problème,
marmonna Kara.
La magie ?
Bien deviné.
Oui. Bon, je vais filer, histoire de trouver Rachel avant Chase. Sinon, la pauvre aura droit à un sermon sur les petites filles qui explorent des endroits trop dangereux pour elle.
Cette gamine pourrait être née ici,
soupira Zed.
Parfois, j'ai l'impression qu'elle se repère mieux que moi dans ce labyrinthe.
Je sais,
dit Rika.
Quand je patrouille, il m'arrive de la rencontrer dans les endroits les plus saugrenus. Un jour, j'aurais juré qu'elle s'était perdue. Elle a affirmé que non, et pour le prouver, elle m'a guidé jusqu'à sa chambre. En chemin, elle n'a pas hésité une seule fois. Arrivée à destination, elle a souri et lancé joyeusement. « Tu vois ce que je te disais ?»
Amusé, Zed se gratouilla la tempe.
« J'ai vécu exactement la même expérience. Les enfants apprennent vite et ils ont un sacré sens de l'orientation. Chase l'a formée à se situer dans l'espace afin qu'elle ne s'égare jamais. Moi, c'est parce que j'ai grandi ici que je m'oriente si bien. »
Rika se détourna, prête à partir, mais Zed la rappela.
« Le gémissement ? » dit-il. « Tu l'as entendu là-haut ?»
La mort de Sith acquiesça.
« Dans le couloir qui passe devant la rangée de bibliothèques ? L'endroit où il y a des alcôves salons devant presque toutes les salles ?»«
Exactement.
J'explorais les bibliothèques au cas où Rachel y serait. Elle adore les livres, cet enfant. Mais vous devez avoir raison, Zed. C'était la respiration du complexe. »«
Oui. Sauf que c'est un des endroits où la forteresse ne fait pas de bruit quand elle respire. »
Ce couloir est fermé aux deux extrémités. Du coup, le courant d'air n'est jamais assez vigoureux pour produire des sons.
Le gémissement devait venir de beaucoup plus loin. Une illusion sonore, tout simplement.
Zed ne parut pas convaincu.
Et tu es catégorique ? Ça ressemblait à un gémissement ?
En y réfléchissant, le mot grognement serait plus approprié.
Un grognement ?
Répéta le vieil homme. Il approcha de la porte, passa la tête dans le couloir et tendit l'oreille.
« Pas le grognement d'un animal, » dit Rika,
« mais quelque chose de très similaire, comme quand... Eh bien, je l'ai dit au début, ça m'a fait penser au vent qui souffle sur un chemin de ronde.
« Moi, je n'entends rien, »
annonça Zed.
« D'ici, c'est tout à fait normal. »
Nietzsche rejoignit le sorcier et la mort de Sith.
Dans ce cas, pourquoi est-ce que je sens des vibrations au creux de ma poitrine ?
Peut-être parce que tu as joué toute la nuit avec la magie d'Orden,
avança Zed.
C'est bien possible,
admit Nietzsche.
La plupart de ces sortilèges étaient nouveaux pour moi, et j'ignore en quoi peuvent consister les effets secondaires de telles invocations.
Rika, tu te rappelles le jour où Friedrich a déclenché une alarme ?
Demanda Zed.
Le bruit ressemble-t-il à ça ?
Non, sauf si l'alarme en question sonnait sous l'eau.
Ces alertes sonores sont des sorts qu'il n'est pas possible d'activer sous l'eau.
D'un coup de poignet, Kara fit voler son agiel dans sa main.
Assez de parlotte.
Elle approcha à son tour de la porte, forçant les autres à s'écarter.
« On va aller voir. »
Zed et Rika emboîtèrent le pas à Kara.
Nietzsche ne les imita pas. « Je préfère ne pas trop m'en éloigner, »
dit-elle en désignant le construct qui entourait la boîte. En plus de devoir veiller sur la boîte, il lui fallait étudier le livre de la vie et une multitude d'autres grimoires. Il restait des pans entiers de la théorie ordénique qu'elle ne parvenait pas à comprendre parfaitement. Des dizaines de questions sans réponse la désorientaient, et pour aider Richard, il serait obligatoire d'avoir toutes les réponses, sans l'ombre d'une marge d'erreur. Nietzsche s'inquiétait surtout à propos d'une problématique centrale de la théorie ordénique. Pour résumer, cela concernait le lien entre le pouvoir d'Orden et le sujet visé par le sort d'oubli, en l'occurrence Callan.
Pour le moment, Nietzsche tentait de mieux cerner la nature des exigences requises pour les connexions de ce type reposant sur des fondations primaires. Afin d'y parvenir, elle devait comprendre comment les fondations en question étaient établies et définies. Les protocoles prédéterminés étaient soumis à des contraintes dont l'extrême rigueur l'étonnait. Il en résultait qu'un champ stérile était indispensable afin de recréer la mémoire. Encore fallait-il savoir dans quelles conditions bien précises mettre en action les diverses forces censées permettre ce résultat. Mais la principale difficulté demeurait liée au champ stérile. De quelles caractéristiques devait-il être doté pour satisfaire aux exigences de la magie d'Orden? Et plus important encore, pourquoi le protocole ordénique exigeait-il un tel champ?
Les champs de force protecteurs sont activés, disait à l'ancienne maîtresse de la mort. Toutes les entrées de la forteresse sont protégées. Si des intrus y étaient introduits, le vacarme serait insupportable. Nous serions obligés de nous mettre des boules de cire dans les oreilles.
Certains pratiquants de la magie savent se jouer de ces protections, rappela Nietzsche. Zed n'eut pas besoin de réfléchir très longtemps à son objection.
Tu as parfaitement raison. Avec tout ce qui se passe et tout ce que nous ignorons encore, la prudence s'impose. Il vaut effectivement mieux que tu gardes un œil sur la boîte.
Nietzsche sortit quand même de la bibliothèque dans le sillage du vieil homme et de la mort de Site.
Dès que vous saurez de quoi il retourne, revenez m'en informer, dit-elle.
Large d'une dizaine de pieds au maximum, le couloir au sol incliné continuait à perte de vue dans les deux sens. C'était en réalité une sorte de faille qui s'enfonçait profondément dans les entrailles du complexe, dans un sens, et qui, dans l'autre, montait jusqu'à ses niveaux les plus élevés. Sur la gauche, le mur de roche naturelle avait été taillé à coups de pic dans le flanc de la montagne. Après des milliers d'années, on voyait toujours les marques laissées par des centaines d'outils. Le mur de droite, du côté des immenses salles, était composé d'énormes blocs de pierre parfaitement scellés. Cette muraille-là faisait au bas mot une bonne soixantaine de pieds de hauteur. Cette faille était en quelque sorte la limite naturelle du champ de force qui protégeait ce secteur de la forteresse. Les salles défendues par ce bouclier étaient donc situées sur la façade de l'immense complexe bâti à flanc de montagne. Nietzsche accompagna ses amis un court moment, puis elle les regarda s'éloigner en silence.
« Ce n'est pas le moment de faire du sentiment ou de se montrer chevaleresque, » leur lança-t-il. « Trop de choses importantes sont en jeu. »
Zed hocha la tête pour montrer que le message ne tombait pas dans l'oreille d'un sourd.
« Dès que j'aurai vu de quoi il s'agit, nous reviendrons ici, » dit-il.
Kara se retourna pour sourire à son ami.
« Ne vous en faites pas, je suis dans le coup, et absolument pas d'humeur chevaleresque. Pour être honnête, je doute de retrouver ma bonne humeur avant d'avoir revu le seigneur Ral sain et sauf. »
« Ta bonne humeur ? »
répéta Zed, incrédule.
« Je suis souvent dans de charmantes dispositions. Oseriez-vous le nier ? » ?»«
Sûrement pas. L'adjectif « charmante » semble avoir été inventé pour toi. »«
Ah, j'aime mieux ça. » »«
Si je devais faire une liste, il serait même placé avant son collègue sanguinaire. »«
Tout bien pesé, je préfère celui-ci. »
Les dialogues de ce genre dépassaient Nietzsche, parfaitement dépourvus du sens de l'humour. Incapable de faire rire quiconque, elle se demandait souvent comment Zed et les autres s'y prenaient pour alléger l'atmosphère en échangeant quelques plaisanteries. Nietzsche connaissait mieux que personne les ennemis de Richard. Dans un passé pas si lointain, zélatrice aveugle de l'ordre, elle s'était fait un point d'honneur de ne jamais sombrer dans le sentimentalisme, le père de tous les péchés pour une sœur de l'obscurité. Elle n'avait jamais vu Jagang se montrer jovial ou espiègle. Quant à ses réparties, elle souffrait d'une sorte de lourdeur maladive. Tout le temps qu'elle avait passé avec lui, l'empereur avait affiché une détermination sans faille. Prenant très au sérieux la cause de l'ordre, il y consacrait chaque minute de sa vie. Connaissant très bien les soudards de l'ordre et leur chef, Nietzsche entendait se montrer aussi résolu et aussi sinistre qu'eux. Visiblement, certains de ses compagnons d'armes avaient dépassé ce stade. Dans le couloir, Zed, Kara et Rika venaient de tourner à droite pour s'attaquer à un escalier étroit. Alors qu'ils commençaient à gravir les marches, Nietzsche comprit brusquement ce qu'était le grognement décrit par Rika. Pas étonnant qu'elle ait capté les vibrations jusqu'au creux de sa poitrine. C'était bien une alarme. Et il n'était pas étonnant que Rika ne l'ait pas reconnue. Nietzsche voulut crier un avertissement à ses amis, mais à cet instant précis, le temps parut s'arrêter, comme si le monde vivait ses derniers instants. Un nuage noir jaillit de l'escalier. On eût dit l'image géante d'un serpent, mais qui aurait su voler, qui ondulait dans l'air au son inaudible d'une flûte invisible. Puis le temps reprit son cours, et le bruit résonna aux oreilles de Nietzsche, à la fois assourdissant et oppressant. Des milliers de chauves-souris envahirent le couloir. Toute une colonie de ces minuscules animaux volant ensemble pour former un improbable reptile ailé. Le vacarme, incroyable lorsqu'on pensait à la taille individuelle de ces créatures, faisait vibrer jusqu'à la paroi de la montagne. Les chauves-souris fuyaient quelque chose, un ennemi invisible pour le moment, mais qui les terrorisait. Kara, Rika et Zed semblaient pétrifiés au pied de l'escalier. Les chauves-souris passèrent devant Nietzsche, continuèrent leur chemin et disparurent. Un moment, l'écho du battement de centaines de milliers d'ailes retentit encore dans le couloir, puis le silence revint. C'était ce bruit soudain que Rika avait entendu sans parvenir à l'identifier. Le regard rivé sur ses amis, toujours immobiles au pied de l'escalier, Nietzsche eut le sentiment d'être prisonnière d'une minuscule faille dans le temps, un cocon éphémère dans lequel, le souffle coupé et le cœur battant la chamade, elle attendait que se produise un événement terrible qui dépassait son imagination. Proche de la panique, elle s'avisa qu'elle ne pouvait plus bouger. Soudain, une silhouette sombre jaillit à son tour de l'escalier, balayant les marches comme un vent méphitique. Apparemment, et d'une manière totalement inexplicable, cette ombre plus noire que la nuit semblait planer en vol stationnaire au-dessus du sorcier et de ses deux compagnes. Une illusion d'optique, bien sûr, mais comment distinguer la vérité du mensonge? La nappe d'obscurité était-elle immobile? Les multitudes de nodules noirs qui la composaient générant une impression de mouvement? Où se déplaçait-elle vraiment, son énorme masse, susceptible d'occulter l'univers tout entier, lui conférant une apparence d'immobilité mortellement trompeuse? Nietzsche battit des paupières, et cela suffit pour que le linceul noir se volatilise. La magicienne fit un nouvel effort pour bouger, mais elle eut le sentiment d'être immergée jusqu'au cou dans de la cire fondue. Elle restait à même de respirer, pas très profondément cependant, voire d'avancer, mais à une lenteur impossible pour toute créature vivante. Chaque pouce gagné exigeait d'elle un effort surhumain et semblait lui coûter la moitié d'une vie. Le monde prenait une telle densité que tout y ralentissait inexorablement. Les gestes, les pensées, les battements de cœur. Dans le couloir, un peu derrière le sorcier et les deux femmes, toujours transformées en statues au pied de l'escalier, la forme noire apparut de nouveau, lévitant à deux ou trois pieds au-dessus du sol. Nietzsche pensa à une noyée en robe noire flottant entre deux eaux, et malgré sa terreur, elle trouva cette vision hors du commun étrangement fascinante. Zed, Kara et Rika, que la silhouette avait déjà dépassée, continuaient à s'attaquer aux premières marches de l'escalier, tels les personnages d'un tableau à jamais figé dans ce qui restait pourtant un mouvement. Les cheveux noirs de la femme, car il s'agissait d'une femme, formaient une sombre corolle autour de son visage d'une pâleur cadavérique. Le tissu noir de sa robe, souple comme de la soie, ondulait comme de l'eau agitée par un vent tourbillonnant. Enchâssée dans ses deux masses en mouvement, sa chevelure et sa tenue, la femme elle-même semblait d'une immobilité minérale. On eût dit qu'elle flottait dans une eau couleur d'encre. Soudain, elle se volatilisa de nouveau. L'alarme n'avait pas retenti sous l'eau, comprit Nietzsche, mais dans la slif. Et la magicienne elle-même avait la sensation d'évoluer dans le vif argent. L'impression de dériver lentement dans une matière épaisse et visqueuse, et en même temps, le sentiment de se déplacer à une vitesse incroyable. La femme aux cheveux noirs se rematérialisa plus près de Nietzsche cette fois. La magicienne tenta en vain de crier.
Puis elle essaya de lever les bras afin de jeter un sort, mais le mouvement se révéla beaucoup trop lent pour être efficace. À cette vitesse, elle risquait d'avoir besoin de la journée entière pour tendre les mains. Des éclairs zébraient l'air entre la position de Nietzsche et celle de ses trois amis. Des attaques magiques lancées par Zed à l'évidence. Hélas, elle parvenait rarement à atteindre l'intruse et se dissipait sans lui faire de mal les rares fois où elle la touchait. Nietzsche admira quand même le vieux sorcier, qui réussissait partiellement là où son propre échec était total. Une traîne noire flottait derrière la femme, et des ombres ondulaient comme des reptiles dans cette masse à la lente mais inexorable dérive. La silhouette au visage blême ne marchait pas et elle ne courait pas davantage. Elle glissait dans l'air, parfaitement immobile dans son cocon de tissu noir qui l'enveloppait comme un suaire. Le spectacle le plus déroutant que Nietzsche ait jamais vu. Elle n'était pourtant pas en position de le savourer, car elle avait l'impression de se noyer. En tout cas, sa respiration devenait laborieuse, car ses poumons, au ralenti comme le reste de sa personne, ne parvenaient plus à aspirer assez d'air. La vision de la magicienne se brouilla. Quand elle eut réussi à l'éclaircir de nouveau, l'intruse n'était plus là. Vraiment ? Où étaient ses yeux qui ne réussissaient plus à la suivre ? Si le couloir lui paraissait vide, c'était peut-être une illusion de plus et la plus dangereuse de toutes dans ce contexte. À moins que... Troublée, Nietzsche se demanda si elle ne souffrait pas d'hallucinations, à cause des sorts qu'elle avait lancés toute la nuit durant. La magie d'Orden pouvait-elle avoir de tels effets secondaires ? Lui infligeait-elle un terrible châtiment pour la punir de s'être frottée à des forces qui la dépassaient ? Ce devait être la réponse. Les événements en cours étaient sûrement liés aux périlleuses invocations de la nuit passée. La femme reparut de nouveau, comme si elle émergeait des profondeurs d'une eau plus noire que de l'encre. Des yeux d'un bleu délavé se rivèrent sur Nietzsche, la dévisageant comme s'il n'y avait plus rien d'autre à regarder en ce monde. L'âme de l'ancienne maîtresse de la mort en fut glacée de terreur. Avec leur pâleur surnaturelle, les yeux de l'apparition auraient dû être ceux d'une aveugle, mais la femme y voyait parfaitement, Nietzsche en aurait mis sa main au feu. Elle jouissait d'une acuité visuelle parfaite, non seulement en plein jour, mais aussi dans la plus obscure des cavernes où la lumière du soleil ne parvenait jamais à s'aventurer. La créature de cauchemar sourit, exprimant toute la jubilation malsaine d'un esprit qui ignorait la peur mais adorait la susciter chez les autres. Le rictus triomphant d'une femme certaine de tout maîtriser et de ne rien risquer. Nietzsche en frissonna de terreur. Une fraction de seconde plus tard, la femme se volatilisa de nouveau. À une distance qui paraissait énorme à Nietzsche, les éclairs de Zed continuaient à faire long feu avec une déprimante constance. Nietzsche se crut un instant en train de rêver. Très souvent dans ses cauchemars, elle était paralysée alors qu'elle aurait dû courir à toutes jambes pour échapper à Jagang. Implacable, l'empereur la rattrapait toujours et elle lisait dans ses yeux, à mesure qu'il approchait, une cruauté dépassant tout ce qu'un être pensant pouvait imaginer. Dans ses mauvais rêves, malgré des efforts inhumains, la magicienne ne réussissait jamais à sortir de sa fatale torpeur. Chaque fois, Nietzsche se réveillait dans un état proche de la panique. Lorsque la mort paraissait si réelle, même dans un songe, le goût de la terreur vous emplissait la bouche et sa puanteur vous saturait les narines. Une nuit, dans un camp, elle avait eu ce cauchemar en présence de Richard. Après l'avoir réveillé, il avait voulu savoir ce qui lui arrivait. Ravalant ses larmes, Nietzsche lui avait tout raconté. Les mains posées sur ses joues, son ami l'avait assuré que tout allait bien. Les cauchemars, à l'en croire, n'étaient jamais aussi désastreux que la réalité, surtout en temps de guerre. Nietzsche aurait tout donné pour qu'il la prenne dans ses bras afin de mieux la consoler. Hélas, il n'en avait rien fait. Mais le contact de ses mains, qu'elle avait recouvertes des siennes, et ses paroles réconfortantes avaient fini par avoir raison de la terreur. Dans ce couloir, face à la femme spectrale, Nietzsche ne rêvait pas. Et c'était tout le problème. La magicienne tenta une nouvelle fois de crier pour attirer l'attention de Zed, mais elle échoua encore. Elle voulut invoquer son Han,
et découvrez qu'elle n'avait plus aucun lien avec la source de sa magie. Alors que ses pensées et ses gestes ralentissaient de plus en plus, son don évoluait toujours en accéléré. Toute connexion était impossible et le resterait jusqu'à nouvel ordre. La femme au visage de morte et à la traîne d'obscurité se matérialisa devant Nietzsche. Jaillissant du vortex noir de la robe, une main squelettique flatta un instant le menton de la magicienne. Du bout d'un index, une manière particulièrement humiliante de signifier à l'ancienne maîtresse de la mort qu'elle était battue à plate couture. Contrainte de supporter cette infâme caresse, Nietzsche eut le sentiment que des serres lui déchiquetaient la poitrine de l'intérieur. La femme éclata d'un rire malsain qui sembla devoir se répercuter dans tous les corridors de la forteresse. Devinant ce que voulait cette femme et par conséquent ce qu'elle était venue faire, Nietzsche tenta encore de puiser dans son Han assez de force pour s'opposer à ses sinistres desseins. Inutile d'insister. Sa magie était si loin d'elle désormais qu'il lui aurait fallu une éternité de course pour la rattraper. Sans avertissement, la femme en noir se dématérialisa de nouveau. Lorsqu'elle redevint visible, elle était en train de franchir le seuil de la bibliothèque, ses pieds lévitant à quelques pouces du sol, comme si elle se fichait royalement de ce qu'on nommait les lois de la physique. Quelques secondes plus tard, l'intrus se rematérialisa entre la double porte de la bibliothèque et la position de Nietzsche. Comme c'était prévisible, la voleuse sans substance avait coincé la boîte d'Orden sous son bras gauche. Des éclats de rire retentirent dans la tête de la magicienne. Alors qu'elle cherchait à localiser leur source, la pauvre Nietzsche perdit connaissance et s'écroula comme une poupée de chiffon.